On m'a donné 45 minutes, donc on est là jusqu'à 2 heures. Hein. Alors, la semaine passée, nous avons eu une étude théologique très poussée. Et puis, John me dit, « Ah, mais notre Église aime beaucoup ce genre de choses, les exposés bibliques. » Je lui dis, « Mais écoutez, moi j'ai 70 ans et je suis en train de faire un tout petit peu mon testament spirituel. Donc, ayant fait beaucoup de bêtises dans ma vie, j'ai peut-être appris des leçons que d'autres peuvent profiter. » Alors, il me dit, « T'es libre, tu fais ce que tu as sur le cœur. » Ne vous en faites pas, on va lire beaucoup dans la Bible aujourd'hui. Donc, ça ne sera pas une étude biblique, mais on va y référer souvent. Le titre que j'ai donné à mon message ce matin, c'est en fait une question. Un ciel toujours bleu, point d'interrogation. Et je propose de parler des chrétiens accablés. Alors, je ne sais pas ici s'il y a des chrétiens accablés, mais moi, j'ai été accablé dans ma vie et j'ai appris pas mal de leçons. Et puis, je voudrais partager ça avec vous ce matin. Alors, pour ce faire, on va d'abord lire dans l'Ancien Testament. Et puis, mon premier point, j'appelle « accablé par des circonstances ». Et nous allons parler d'Élie. Alors, je vous demande d'ouvrir vos Bibles à 1 Roi 18. 1 Roi 18, et nous allons beaucoup lire. D'ailleurs, j'ai même du taille un tout petit peu dans la masse, parce que sinon, on sera là jusqu'à 3 heures. Alors, c'est l'histoire d'Élie et les prophètes de Baal. Donc, je vais peut-être résumer un peu l'arrière-plan. Vous savez qu'Israël a eu des rois plus mauvais les uns que les autres, à part deux ou trois exceptions. Et puis, Achab et Jézabel, sa femme, étaient vraiment les pires, puisque Jézabel a fait tuer tous les prophètes de l'Éternel. Et il en résulte que le Seigneur a fermé le robinet. Et il y avait sécheresse pendant des années. Alors, maintenant, nous allons lire donc 1 Roi 18, verset 1. « Bien des jours s'écoulèrent, et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie, dans la troisième année. Va, présente-toi devant Achab, et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. » Et Élie alla pour se présenter devant Achab. Maintenant, je vais résumer pour pas qu'on passe la journée, c'est que de son côté, Achab, d'un côté, un de ses collaborateurs qui était un croyant en douce, parce que sinon il serait tué, sont allés chercher de l'herbe. Et par hasard, entre guillemets, cet serviteur est tombé sur Élie, qui a dit, « Va vers ton maître et fais-le venir vers moi. » Alors maintenant, verset 16, « Abdias étant allé à la rencontre d'Achab, l'informa de la chose. Et Achab se rendit au-devant d'Élie. À peine Achab aperçut-il Élie, qui lui dit, « Est-ce que toi qui jettes le trouble en Israël ?» Elle y répondit, « Je ne trouble point Israël, c'est toi au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé auprès des Baal. Fais maintenant ressembler tout Israël auprès de moi, à la montagne de Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. » Achab envoya les messagers vers tous les enfants d'Israël, et il rassembla les prophètes à la montagne de Carmel. Alors Élie approcha tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés ? Si l'Éternel est Dieu, allez auprès de lui. Si c'est Baal, allez auprès de lui. » Le peuple lui répondit rien. Et Élie dit au peuple, « Je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. Et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne deux taureaux, qui choisissent pour eux l'un des taureaux, et qui le coupent en par morceaux, et qui placent sur le bois, sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau, et je placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu, et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. » Et tout le peuple répondit en disant, « C'est bien. » Élie dit au prophète de Baal, « Choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le le plus premier, car vous êtes le plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas de feu. » Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent. Et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi, en disant, « Baal, réponds-nous. » Mais il n'y eut ni voix ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait à midi, Élie se moqua d'eux et dit, « Criez haute voix. » Puisqu'il est Dieu, il pense à quelque chose peut-être, ou il est occupé, ou il est en voyage, ou peut-être il dort. Et il se réveillera, et ils crièrent à haute voix, ils se firent, selon leur coutume, les incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coulait sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande, et il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Elie dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Et tout le peuple s'approcha de lui. Et Elie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé, et il prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, « Israël sera ton nom. » Et il bâtit avec ses pères un autel au nom de l'Éternel. Et il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau en morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches. Souvenez-vous, ils étaient en pleine sécheresse. Donc l'eau, c'était comme de l'or. Et versez-la sur l'holocauste. Et il fait, faites-le une seconde fois. Et il fait une seconde fois. Et il fait-le une troisième fois. Donc il n'y avait plus d'eau. Et il fit une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et remplit ainsi le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Elie le prophète s'avança et dit, « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que je fais toutes choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que le peuple reconnaisse que c'est toi l'Éternel qui es Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. » Et le feu de l'Éternel tomba et consuma l'holocauste, le bois, les pierres, la terre et même l'eau. Quand le peuple vit cela, ils tombèrent sur le visage et dirent, « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. » Alors je résume un peu la suite. Elie a fait saisir les prophètes, les a tués, et ensuite la pluie commençait à venir. Et puis de là, Elie, en fait, a couru devant le char d'Achab jusqu'à Jézréel. Ça fait plus de 20 kilomètres, il a fait un demi-marathon. Alors cet homme a reçu là encore une force physique incroyable que Dieu l'avait donné sa parole pour pouvoir annoncer de cette façon, de cette puissance. De quel courage, quelle foi, et en plus une force physique de courir jusqu'à Jézréel. Ensuite, nous commençons verset 1 de chapitre 9-19. Achab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Elie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel lui envoie un SMS à Elie pour lui dire « Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à 7 heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait à la vie de chacun d'eux. » Alors voilà, ce grand homme de Dieu, il reçoit un petit message. Et celui qui n'avait pas peur devant 400 prophètes qui étaient armés puisqu'ils avaient des lances et des... Il reçoit, comme je viens de dire, il reçoit un SMS et puis il a peur. Celui qui a pu courir un demi-marathon devant le char, il a peur. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fuit pour sa vie. Elie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Alors celui qui avait une foi à déplacer les montagnes, maintenant est au fond du trou. Il arrive à Beersheba, ça fait 100 kilomètres entre Jézréel et Beersheba à peu près, hein, qui appartient à Juda et il laisse son serviteur. Pour lui, il allait dans le désert. Après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demande à la mort en disant, « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, un ange le toucha. Et lui dit, « Lève-toi et mange. » Alors là, il y a une petite question pour les concours bibliques. Est-ce que les anges savent faire la cuisine? Alors, la réponse est oui. Parce qu'il regarda, et il avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il n'a pas dit que si le gâteau avait une cerise dessus. Mais n'empêche, j'aimerais dire que voilà Elie qui est au fond du trou, cet homme de foi, cet homme si fort, accablé par les circonstances, par juste un petit SMS qui dit « je vais te tuer ». Et là, il est au fond du trou. Mais le Dieu qui était avec lui sur le mont Carmel, qui l'a permis de tenir tête à tous ses prophètes, était avec lui au fond du trou dans son accablement. Il ne lui a pas simplement donné du pain et de l'eau à manger. Il lui a donné un gâteau cuit chaud avec une cerise. Et ça, je pense que c'est la leçon que j'aimerais dire aujourd'hui, qu'on soit accablé par les circonstances, en voulant marcher pas avec le Seigneur, il est avec nous. Celui qui est avec nous sur le sommet quand tout allait bien, c'est le même qui est auprès de nous, au fond de la vallée, au fond de notre trou. Et puis, il nous envoie les anges faire des petits gâteaux chauds avec une cerise. J'aimerais peut-être juste faire un changement, un petit sujet là maintenant, en ce qui concerne la lecture de la parole de Dieu. Là, on vient de lire tout un paquet, ça pourrait être même, j'avais prévu d'être même plus long. Mais moi, je crois que la simple lecture de la parole de Dieu a un effet purificateur sur nous. Moi, j'avais le privilège d'être né dans une famille chrétienne, et puis mon père était prédicateur à plein temps pendant quelques années, et notre maison servait de maison de repos pour les évangélistes, pour les missionnaires, qui venaient passer quelques jours pour se ressourcer. Donc, moi, j'entendais régulièrement, comme j'avais 7, 8, 9 ans, entendait régulièrement des discussions et des choses comme ça. Puis une fois, nous avions un évangéliste, un jeune évangéliste très dynamique. Il spiritualisait tout, presque au point d'être pénible. Et puis en même temps, on avait un vieux patriarche, cheveux gris, cheveux blancs. Et puis un matin, je vois le patriarche qui descend l'escalier péniblement. Et puis le jeune l'agresse presque en disant « Ah, bonjour, cher frère. Alors, vous êtes plongé dans la parole ce matin. Qu'est-ce que le Seigneur vous a donné ?» Puis ce pauvre monsieur, il regarde pendant quelques secondes et puis dit, « Jeune homme, ce matin, pour me laver, je me suis plongé dans l'eau. Je suis sorti propre, mais il n'y a plus d'eau sur moi. De même, je me suis plongé dans la parole de Dieu. Ça m'a purifié, même si j'ai rien de spécial de la part de Dieu ce matin. Et je trouve que c'est important de pouvoir lire la parole de Dieu, parce que la simple lecture, à haute voix, si ça ne dérange pas les voisins, c'est aussi une façon, et c'est un effet sur nous purificateur. Donc, c'est une des raisons pourquoi j'ai lu tout ce texte, et j'ai bien apprécié le texte tout à l'heure. J'aime bien qu'on lit la parole de Dieu, parce que ça nous aide, ça nous met sa présence, ça nous purifie. Donc, voilà, mon premier point, c'était accablé par les circonstances. Maintenant, je vais parler de quelque chose de plus proche de nous, accablé par nos propres bêtises. Et je vais vous parler de quelqu'un que j'aime beaucoup dans la Bible, c'est Jonas. Alors, je vous prie d'ouvrir vos Bibles à Jonas, parce que ce cher monsieur est pire que moi. Et ça me rassure. Heureusement que j'ai pu trouver quelqu'un qui est pire que moi. Alors, nous allons lire dans Jonas chapitre 3. Alors, de nouveau, je vous raconte un tout petit peu. Bon, tout le monde connaît l'histoire de Jonas. Têtu comme un mule, le Seigneur dit « va au nord, il va au sud ». Vraiment pire que lui, il est pire que moi. Donc c'est pour ça que je suis rassuré que si Dieu peut travailler avec lui, bon, il peut travailler avec moi. Alors ce brave Jonas, finalement, après toutes les péripéties que vous connaissez, voyage sous-marin et tout le reste, alors il se trouve à Ninive. La parole de Dieu fut adressée, donc Jonas chapitre 3 verset 1, la parole de Dieu, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva, s'en alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Quelqu'un a calculé que c'est à peu près la région parisienne actuelle. Pour vous donner une surface, c'était énorme. Bon, il n'y avait pas de gratte-ciel, mais il y avait quand même plus de 120 000 personnes. Donc, c'est quand même vraiment une grande ville. Alors, Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche et il crie en disant, « Encore 40 jours et Ninive est détruite. » Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne, se revêtirent des sacs, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Donc, ça vient du peuple, hein. C'est le peuple qui a bougé d'abord. Ensuite, les choses parvinrent au roi de Ninive. Il se levait de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit dans le cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands que les hommes et les bêtes, les bœufs, les brebis ne goûtent de rien, ni passent point, ni boivent point d'eau, que les hommes et les bêtes soient couverts de ça, qui crient à l'Éternel avec force, qui reviennent tous de leurs mauvaises voies et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas et s'il ne renoncera pas à son ardent colère en sorte que nous ne périssions point. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient sur leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait fait, résolu de le faire, et il ne le fit pas. Donc Dieu qui avait décidé de détruire cette ville sur la prédication de Jonas décide de ne plus le faire. Alors notre brave Jonas, je vous dirais, je pense que c'est le plus grand prédicateur de tous les temps. D'accord, en Afrique, il y a maintenant des conversions par milliers, mais en 4 jours de convertir 120 000 personnes, je dirais que Jonas, malgré tous ses défauts, est le plus grand prédicateur de tous les temps. Imaginez, dimanche prochain, John Glass dit, « Dans 40 jours, Genève va être détruite si vous ne changez pas. » Puis lundi, il va, comme Calvin, « Place du Mollard, Genève, dans 39 jours, si vous ne changez pas, vous allez être détruite. » Puis à l'aéroport, puis ailleurs, et puis le Conseil d'État proclame un jeûne, et puis le stade ici derrière sera plein de gens convertis. Mais ça fera le tour du monde. Mais c'est ce qui s'est passé avec Jonas. Magnifique prédicateur. Il devait être heureux que, vraiment sur la parole que Dieu lui a donnée, que tout le monde était converti, et Dieu a même changé d'avis. Ça, c'est un message en soi. Est-ce qu'on peut faire changer l'avis à Dieu? Mais alors, notre brave Jonas, toujours têtu comme un mule, chapitre 4, verset 1, « Cela déplut fort à Jonas, et il fut irrité. » Pourtant, c'était le but de l'opération. C'était d'aller à Ninive et prêcher l'Évangile, ou prêcher la conversion. C'est la même chose pour eux. Alors, il implore à Dieu, il dit, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore loin ? C'est ce que je ne voulais. C'est pour ça que je ne voulais pas venir en fuyant à Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et que tu réponds du mal. Maintenant, Éternel, prends donc ma vie, car la mort m'est préférable à la vie. » Mais il est vraiment au fond du trou, et le pire, c'est qu'il creuse encore. Et puis, c'est lui qui a fait le trou. Donc, l'Éternel lui dit, « Fais-tu bien de t'irriter ?» Il ne répond pas. Il sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Là, il fait une petite cabane, il s'éteint à l'ombre, jusqu'à ce qu'il voie ce qui arrive à lui. Il savait très bien qu'il n'allait rien se passer. L'Éternel fit croître un ricin qui est élevé au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre à sa tête. Ce pauvre bourrique, même le Seigneur s'occupe quand même. Elle lui ôtait son irritation. Jonas éprouva une très grande joie à cause du ricin. Mais celui-là. Mais le lendemain alors, Dieu fit venir un ver qui piqua le ricin et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud de l'Orient. Le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda de nouveau la mort en me disant « La mort est préférable à la vie. » Dieu dit à Jonas « Fais-tu bien de t'irriter à cause de ricin ?» Il répondit « Je fais bien de mériter. » Donc il tient tête à Dieu, tête à Dieu. Il faut être costaud, hein. Tu as pitié d'un ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui périt dans une nuit, et moi, n'aurais-je pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 personnes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre? Alors, on voit de nouveau un autre cas, quelqu'un qui était le plus grand prédicateur de tous les temps, têtu comme un mule. Il se creuse un trou, il se trouve au fond, mais Dieu est avec lui et prend soin de lui. Il n'a pas droit à un gâteau chaud avec une cerise, lui. Mais avec un caractère pareil, ce n'est pas étonnant. Par contre, il a eu droit à un ricin qui a poussé. Donc, malgré tout et malgré qu'il s'est creusé son propre trou, ce Dieu qui était dans la puissance de sa parole quelque temps avant est avec lui au fond de sa bêtise. Et ça, je l'appelle accablé par nos propres bêtises. Et c'est le sujet de mon message ce matin, c'est que quand nous sommes au fond du trou, comme quand nous sommes sur la montagne, c'est le même Dieu qui est avec nous et nous accompagne. Alors, je vous ai dit, je suis en train d'aborder ce que j'appelle mon témoignage personnel, mon testament spirituel. Et j'aimerais quand même aborder quelques thèmes qui, parfois, on n'ose pas le faire. C'est des choses dont on ne discute pas parce que dans la vie d'aujourd'hui, il faut rester tranquille. Et puis, il y a des choses qu'on n'arrive pas à s'expliquer. Mais dans la vie chrétienne, il semble qu'on doit tout pouvoir expliquer. Mais dans la vie de tous les jours, il y a plein de choses qu'on ne comprend pas, qu'on ne sait pas. Il y a à peu près 2 ans, il y avait l'histoire du LHC. Ce n'est pas le Lausanne Hockey Club, hein, c'est la machine qui est à CERN, au CERN, qui devait créer le fameux trou noir. Vous vous souvenez que si vous lisez la presse à l'époque, qu'il y a des gens qui s'en sont suicidés parce qu'on ne savait pas ce que cette machine allait faire. Et si ça faisait un trou noir, ça pouvait engloutir la Terre, en nager en plein. On ne comprenait pas, même les plus grands scientifiques. Et il y a plein de choses qu'on ne sait pas expliquer. Tout bêtement, la télévision, la radio, On n'a jamais pu expliquer comment marche la radio, comment marche la lumière. Quand vous avez le soleil qui vient sur la main, ben ça brûle, mais donc il y a quelque chose qui vient dessus. Mais comment est-ce que ça vient à travers le vide? Le vide. On ne sait pas. Mais on accepte parce qu'on sait que ça marche. On regarde la télé parce qu'on sait que ça marche. On écoute la radio parce qu'on sait que ça marche. Mais on ne sait pas l'expliquer. Mais dans la vie chrétienne, il semble qu'on est toujours obligé d'avoir une explication. D'ailleurs, des gens disent souvent, moi, je ne veux pas croire parce que je ne comprends pas, je n'explique pas. Bon, mais si on ne faisait que ce qu'on comprenait, on ne ferait pas grand-chose dans la vie. Mais par contre, dans la vie chrétienne, on essaie quand même de toujours expliquer. Moi, je dis, il y a une chose, et vous pouvez réfléchir là-dessus, parce que c'est un truc qui va loin. On ne sait pas ce qu'on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'on ne sait pas. On sait ce qu'on sait. Il y a peut-être plein de choses, il y a peut-être des façons de se déplacer que personne n'a inventées. D'ailleurs, j'en parlais peut-être une autre fois, mais la plupart des inventions des hommes, c'est des trucs qui ont été découverts parce que ça existait dans la nature. Donc, il y a des choses qu'on dit, mais pourquoi on doit toujours expliquer les choses? Et il y a des choses dans la vie, comme effectivement l'accablement. Pourquoi Élie, qui avait tant de foi, il a couru? Pourquoi il n'avait pas exercé ce même foi? Pourquoi notre bourrique de Jonas, qui avait été le plus grand prédicateur, il aurait pu pratiquement être élu assistant du roi avec ce qu'il avait fait? Mais non, il creuse son trou, il va derrière. Pourquoi Dieu le permet? Et je dois dire que moi, je vous réponds, on ne sait pas. Il y a des choses dans la vie qui ne s'expliquent pas. Dans notre mission, on a un couple missionnaire en Russie. Ils ont été frappés par le cancer, les deux en même temps. Lui est décédé, elle a été complètement guérie. Pourquoi? Alors, il y a des choses dans la vie qui nous tombent dessus. La seule chose qu'on pourrait dire, c'est que la Bible nous promet mais que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça, c'est la promesse. Mais les choses peuvent arriver et il faut dire qu'on oublie souvent qu'il y a un ennemi qui est en dehors. On parle dans la Bible de victoire. De victoire, ça veut dire qu'il y a une bataille. Alors, il suffit d'avoir regardé dimanche passé le Corée du Nord pour penser qu'il y en a qui savent ce que c'est la bataille. Mais nous, ici, la vie est tranquille. Alors, ce matin, je parle aux gens, comme à moi-même, pour les chrétiens accablés, dans la tempête sans savoir pourquoi. Vous savez, actuellement, on décrit la vie chrétienne un peu trop facilement. Je suis en train de lire une étude sur l'Épître aux Romains, puis la personne écrit la même chose que moi. Il dit, aujourd'hui, en Occident, c'est trop facile. Et il y a même une tendance aujourd'hui, que je trouve absolument horrible, qui dit, si vous êtes chrétien, vous allez recevoir beaucoup d'argent. Vous allez être bourré de fric. Ben, excusez-moi, ce n'est pas possible. Il y a même, j'ai lu la semaine passée dans une revue, que maintenant en Afrique, ça commence à avoir un effet, cette thèse que si vous êtes chrétien, l'argent va vous tomber dessus. Plus besoin de jouer au million, il suffit d'être chrétien. Qu'un pasteur africain qui avait été touché par ça, sentit qu'il fallait qu'il donne sa voiture à quelqu'un qui était plus pauvre que lui, il l'a fait, puis la semaine après, il a reçu une voiture neuve. Merci Seigneur. Alors tous ses collègues ont fait pareil, maintenant ils sont à pied ou à vélo. Il y a une seule raison pourquoi on devient chrétien, c'est qu'on se reconnaît pécheur, loin de Dieu, qu'on accepte le sacrifice de Jésus-Christ pour nous réconcilier avec Dieu, et par sa résurrection, il nous donne la possibilité de marcher dans une nouvelle vie. C'est la seule raison. On ne vient pas en chrétien pour essayer d'être riche ou gagner beaucoup de sous, d'avoir un vélo neuf. Hein. Qu'on soit clair. J'aimerais faire une petite parenthèse là, parce que dans ce même livre, il parlait un peu de cette question de devenir chrétien. Vous savez, parfois, il faut très peu de choses. Des fois, on complique la vie. Il raconte l'histoire d'une dame qui était convertie, son mari ne l'était pas, et que dans leur ville, il y avait des réunions d'évangélisation. Et puis, chaque jour, elle lui demandait de venir. Chaque jour, il ne venait pas. Donc, elle allait avec son petit, son fils. Et puis, un jour, il a décidé de venir. Oui, d'accord, je viens. Alors, ils sont venus. Et puis, le prédicateur a parlé du retour de Jésus, qui va venir d'un jour à l'autre. Et il va prendre tous ceux qui sont à lui. Bon, très bien, ils sont rentrés dans la voiture. Et sur le chemin de retour, la maman voyait que le petit était inquiet. Mais qu'est-ce qui arrive? Mais maman, dis-moi. Si le Seigneur vient, papa ne sera pas avec nous. Et la maman dit, mais non, tu ne parles pas de ça, parce qu'elle avait peur que son mari ne vienne plus à la réunion. Et puis bon, plus d'histoire, ils vont à la maison, ils vont se coucher, et puis plus tard dans la soirée, Le petit descend en pyjama et dit, « Maman, j'arrive pas à dormir, je suis triste. Parce que si le Seigneur vient cette nuit, mais papa ne sera pas avec nous. » Elle a, « Maman, va te coucher, discute pas de ça. » Et puis pendant cette nuit, c'est le papa qui n'a pas dormi. Et puis il a réveillé sa femme cette nuit en lui disant, « Mais explique-moi comment est-ce que je trouve le chemin du salut. » Vous savez, des fois, il faut très peu de choses. Mais c'est ça, la vie chrétienne n'est pas d'avoir des richesses ou même une vie facile. Si vous êtes chrétien, si vous suivez le Seigneur, vous serez attaqué. C'est clair. Mais celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Mais vous savez que nous avons tendance à réagir un peu comme les disciples. Quand quelqu'un est accablé, quand quelqu'un a un problème de santé, il a dû faire quelque chose. Vous vous souvenez que les disciples devant le paralytique ont posé la question, mais c'est lui qui a péché ou ses parents? Le Seigneur a dit ni l'un ni l'autre. Dans notre tête, si quelqu'un est accablé, qu'est-ce qu'il a dû faire pour le mériter, entre guillemets? Des fois, on fait des choses, un peu comme au Jonas. J'étais avec un pasteur dans un pays que je nommerai pas très loin d'ici, qui était tout à fait indiscipliné en voiture, il fait un joli poisson collé sur le coffre. On allait au culte et puis roulait 20 km au-dessus de la limite en ville. J'ai quand même pu lui dire, mais cher frère, au niveau témoignage, « Oh, mais le Seigneur sait, moi, connaît mon indiscipline, il me fait grâce. Bah, » Excusez-moi, mais si lui a des problèmes, mais c'est, il a cherché. Mais il y en a qui cherchent vraiment à marcher avec le Seigneur, mais ils sont dans les problèmes quand même. Et puis, c'est tout simplement parce qu'on essaye de le faire. Mais on est en Suisse, vous savez qu'est-ce qui fait la beauté de nos montagnes? C'est la profondeur des vallées. Pour avoir une belle montagne, il faut qu'il y ait un trou à côté, soit énorme. La première fois que nous sommes partis de Suisse avec notre fille Myriam, elle avait 4 ans, on est partis en voiture, en vacances en France. Et puis on passe le Jura, et quand vous arrivez sur le dernier rangé, vous voyez la plaine vers Dijon, toute cette plaine. Et puis on entend la petite derrière qui se met à pleurer, à sangloter, et puis, on part de la voiture, mais il dit, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce que tu as? Mais c'est horrible. Mais qu'est-ce qui arrive? Mais la terre est plate. Il n'y a pas de montagne. Mais quelle tristesse. Dimanche après-midi, on va aller promener où? Mais c'est un tout petit peu la question qu'on pose. C'est que pour qu'on ait des sommets, il faut qu'il y ait des vallées. Et on a la même chose dans nos vies, même en tant que chrétien. On peut avoir une vie complètement plate, et j'en reparlerai tout à l'heure, je dirais presque monotone. On peut avoir une vie chrétienne comme le Jura, qui est gentil, qui est comme ça, les hauts et les bas. Mais on peut aussi avoir comme les hautes montagnes, avec les monstres sommets comme Élie, et puis les fonds du trou le lendemain. Dieu permet tout ça, mais il est toujours avec nous. Vous savez que Billy Graham a dit une fois qu'il y a deux dangers pour les chrétiens concernant le diable. Premier, c'est de s'y intéresser trop, et presque pire, c'est de ne pas s'y intéresser du tout. Il faut penser qu'il y a quand même un ennemi qui est là et qui nous attaque. Je vous demande de tourner à 1 Pierre 5, 1 Pierre 5, verset 8. « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il peut dévorer. » Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vous faire dans le monde. C'est un ennemi redoutable. Alors imaginez en partant, c'est une image que j'ai bien donnée dans les églises ici à Jolly Parking en bas. Imaginez quand vous partez tout à l'heure, vous arrivez où c'est ouvert avec les voitures et il y a un lion qui se trimballe en liberté. Vous ferez quoi? Vous irez la voiture, comme disait quelqu'un, en faisant beaucoup attention. Oui, oui. Mais en tant que chrétien, on nous dit que le diable, il rôde comme ça. Est-ce que quand on part d'ici, on part en faisant attention, en pensant que la moindre faille qu'il peut trouver, il va l'exploiter? Mais celui qui est en vous est quand même plus fort que celui qui est dans le monde. Nous sommes venus ici avec ma femme la première fois, le 31 octobre, et puis temps de discuter, on est parti, c'était assez tard. Ma femme me dit, écoute, on va monter au signal de bougie manger plutôt que de rentrer à la maison. Puis on est monté là-haut, on était tout étonné, le parking était plein, et puis on a essayé, il y avait des queues partout, on arrivait, on prenait une petite salade, et puis on a trouvé une petite table dans un couloir, et puis ensuite il y avait les enfants qui rentraient, tous habillés en sorciers, c'était la fête d'Halloween là-haut, mais j'ai pleuré, je me dis, mais ils ne se rendent pas compte de quoi ils touchent. Le diable utilise tout. Halloween avec ses sourcils et tout ça, mais c'est une porte ouverte au diable. Et même nous, en tant que chrétiens, chaque fois qu'on ouvre la porte, je peux vous dire qu'il entre tout de suite. De temps en temps, en fait, Dieu lève le coin du voile et puis on peut voir un tout petit peu cette bataille qui est en train de se faire autour de nous. Ceux de Corée du Nord, eux, ils savent. Mais ici, nous, on ne le sait pas. On dirait presque que la vie est trop facile. Alors, du temps où je faisais les émissions de télévision, j'étais en Normandie une fois, en train de tourner des émissions, et puis un pasteur venu vers moi, dit, écoutez, on a un jeune homme qui fait du spiritisme, qui s'est converti, il sera d'accord de donner son témoignage pour la télé. Alors, je prends une bobine de film, parce qu'on filmait sur du 16 mm à l'époque, et puis on filme son témoignage. Je rentre en Suisse, on voit toutes mes bobines chez Kodak développées, et toutes les bobines reviennent, tout est parfait, sauf cette bobine-là. Le film est tout voilé, il y a des traits, il y a plein de choses dessus. Alors je coupe un bout, je renvoie chez Kodak, qui font des enquêtes, il n'y a rien, ce film, il est parfait. Pourtant, le film est voilé. Alors on a dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on laisse le diable avoir raison? Mais non, on a passé ça à la télé, on a mis un petit pancarte pour dire, ne réglez pas votre téléviseur, c'est l'image qui est mauvaise. Mais quelques temps plus tard, j'étais en conférence de producteurs de films évangéliques, avec des Américains, et puis j'ai raconté cette histoire, comment le film a été voilé, quand on voulait prendre le témoignage de quelqu'un de spirit, puis il a dit, oh, mais nous, en Afrique, il y avait un chef de village sourcier qui a voulu brûler ses fétiches, et il voulait qu'on le filme. Il a dit, on a eu des flammes de quelques centimètres qui sortaient de la caméra. Faut pas penser que ce lion qui rôde autour de nous, ben, il est content quand on annonce la parole de Dieu, ou même tout simplement quand on veut vivre une vie chrétienne près de Dieu. Ça ne lui fait pas plaisir. Mais vous savez, le diable, il exploite la moindre faille. On peut être même le plus grand homme de Dieu. S'il y a une faille, il va l'exploiter. Du temps où je faisais ces émissions de TV, en fait, il y en a 60 qui ont passé sur le TV romande, mais j'en ai fait à peu près 360 en tout. J'avais deux émissions par semaine à Télé Monte Carlo. Alors, pour ne pas descendre tout le temps, on descendait, on faisait trois jours, trois matinées d'enregistrement. Comme ça, j'avais pour deux mois d'émission. Alors, évidemment, ce n'est pas possible d'avoir un prédicateur pour faire 20 émissions. Donc, il fallait trouver des gens bien qui passaient à la télé, qui savaient s'exprimer. Et dans le milieu évangélique, bon, il n'y a pas tant que ça. Alors, on en a pris un peu dans toutes les tendances. Suffisait parce qu'on faisait de l'évangélisation, qu'on prêche la parole de Dieu, l'évangile, on n'a pas besoin de rentrer dans les discussions de ceci, de ça, et que, bon, je rentre pas là-dedans. Alors, une fois, j'en ai trouvé trois, qui étaient bien, puis on s'est retrouvés la veille dans l'hôtel pour préparer la séance, on a prié ensemble, on était unis, ils se connaissaient vaguement, je crois qu'un deux avait s'est déjà rencontré, mais ils se connaissaient de nom, puisqu'ils étaient dans des milieux différents. Et puis, le lendemain, on se retrouve au studio, il y avait un grand studio, à côté, un petit studio, où en fait on se mettait pour prier ensemble, et puis pendant qu'un tournait sur le plateau, les deux autres soient préparés, soient priés, et puis le premier jour c'était merveilleux, on a vraiment pu faire des émissions, on a senti qu'en fait Dieu était avec nous. Et puis l'après-midi, bon, eux ils ont préparé pour le lendemain, puis moi j'ai pu me reposer un peu, et puis le soir on s'est retrouvés pour préparer le lendemain. Mais le premier soir, ils avaient un trac épouvantable, ils n'ont jamais passé à la télé. Vraiment, m'encrocher à Dieu, c'était bien. Mais le lendemain, ben, on était plus à l'aise, on savait ce que c'était la télé. Et puis, bon, ben, il fallait que je m'y attende un peu, que dans la soirée, ça commençait à dire, « Oui, mais cher frère, tu ne crois pas que ton enseignement... » Et puis, « Oui, cher frère, mais c'était très poli. » Mais au lieu de parler qu'on était ensemble pour le Seigneur, on était en train de trouver quelles étaient les différences. Puis on s'est allé se coucher, ah, ça ne sentait pas très bon. Le lendemain matin, on arrive au studio, tous les matins, on allait dans le petit studio prier. Ce matin-là, on est parlé dans le studio prier, je ne sais pas pourquoi, on s'est tout de suite mis en route, et puis on s'installe, mais ça ne sentait pas bon. Et je me suis dit, est-ce que c'est ces petits conflits, Seigneur? Alors, on se met en route, tout le monde en place, top, top, on tourne, hop, bing, bing, vidéo ne marche plus. Comment ça, la vidéo ne marche plus? Alors, moi, je suis électronicien, donc je suis descendu avec mon petit tournevis, que j'ai plus. Et puis, on a discuté avec le technicien, puis on a bricolé, puis on a mis des pinces à linge, puis on a réussi à le faire marcher. Alors, je commence à être un peu énervé, je remonte, on se met en place, toc, on part, pouf. Caméra 1, l'image tourne. Caméra 1 en panne. Alors là, je commence à être énervé. En tout plus, la direction de studio est descendue pour dire « Eh oh, c'est 10 heures du matin, vous n'avez toujours pas fait une émission, ce n'est pas ma faute. » Alors on a dû changer les caméras, on a dû tout réorganiser. Et puis, je retourne, parce que je commence à être vraiment énervé, et je m'assieds. Ok, on tourne, et c'est le prédicateur qui tombe en panne. Non, mais je ne m'y sens pas, je ne peux plus. Alors j'étais furieux, absolument furieux. Je descends dans le couloir, vous savez, dans les studios, c'est haut comme ça, avec des portes en fer qui pèsent des centaines de kilos. Puis moi, tout énervé, je l'ai fermé sur mon doigt. Oh, que j'ai mal. Alors mon pauvre prédicateur, il a dû entendre des choses pas très catholiques. Quand je l'ai viré dans le studio, j'ai pris un autre. Et je retourne dans le texte, mais ça faisait mal, je devais aller à l'hôpital. Je prends mes têtes entre mes mains, je dis, mais Seigneur, mais où es-tu? Et j'ouvre les yeux et puis je vois sur l'autre du console, il y avait un bouquin ouvert, je n'avais pas vu avant, avec les signes du zodiaque. J'ai dit à Génia, donc le réalisatrice côté de moi, je dis, c'est quoi ça? Ah, mais il n'était pas au courant. Hier soir, on a eu un médium ici, une émission qu'elle a payée elle-même en direct, et les gens téléphonaient pour qu'elle puisse donner leur futur et tout ça, leur avenir. Et puis, elle avait tellement de succès qu'elle a largement dépassé le temps. La direction du studio a téléphoné pour dire, vous mettez la pancarte, liaison interrompue, quelque chose, mais vous arrêtez cette émission. Ah, j'ai dit, ça y est, j'ai compris. Alors, je descends, faisons vraiment attention de la porte. Je vais prendre mes pasteurs, on se met ensemble, on se met le bras par-dessus les uns les autres, et puis on a crié à Dieu pour dire, « Mais Seigneur, pardonne-nous de nos différences, viens en notre aide. » Et il y a eu une explosion dans le studio à côté, et un grand courant d'air frais, mais un boom immense. Et d'ailleurs, on s'est précipité dans le studio, tout le monde était sur le plateau, en train de, parce qu'on ne voyait pas à cause de la lumière, croyant que le plafond avait sauté. Et puis on dit, « Mais que se passe-t-il ? » Et puis par l'intercom, on entend, vidéo, il tourne. Puis celui qui avait les caméras, une, ah, les caméras, une, il tourne. Et même le pasteur en panne a dit, maintenant, je pense que ça va jouer. Moi, j'avais toujours aussi mal à mon doigt, par contre. Alors, je suis rentré, et puis ça a bien marché. Simplement, la petite effet qu'on a discuté un soir entre des hommes de Dieu, mais vraiment des hommes de Dieu, où on concentrait sur nos différences plutôt que le fait ensemble. Quand on était en confronté au diable, c'est lui qui a gagné jusqu'à ce que nous sommes remis ensemble. Et ça, c'est une chose qui est absolument importante pour nous, en tant que chrétiens, de penser. Il ne faut pas faire une fixation là-dessus, mais vraiment de savoir que le Seigneur est avec nous, mais si nous laissons le moindre porte ouverte, il va venir. Billy Graham a aussi dit, si l'ennemi ne vous accable pas, c'est peut-être que vous ne l'intéressez pas et vous ne l'embêtez pas. Et ça, il faut penser, si on a une vie qui est absolument plat, absolument calme, est-ce que vraiment on est en train de chercher à marcher avec le Seigneur? Et puis, bon, mais évidemment, je vais largement dépasser mon temps, donc je vais faire une sautée en avant, et j'aimerais vous préparer d'une leçon que j'ai appris. C'est une leçon pour moi. Alors, vous savez, j'ai horreur de ces gens qui me disent, le Seigneur m'a dit que... Parce que... Alors, moi, je vais vous dire la leçon que le Seigneur m'a appris à moi, si vous pouvez identifier, tant mieux. Nous avons toujours l'impression que le Seigneur, quand on est bien avec lui, il doit s'occuper de nous, il doit nous protéger de tout. Oui, il nous protège. Si on savait que tout ce qui peut nous arriver fait déjà beaucoup. Alors, il faut dire qu'à l'époque, moi, je travaillais un peu sur l'Europe, et puis j'avais l'utilisation d'un petit avion que je pouvais utiliser. Et puis, bon, bah, piloter seul, j'étais qualifié IFR multimoteur, donc ce n'était pas de problème technique. Mais, bon, on est toujours seul, c'est un tout petit peu... D'ailleurs, on dit que la partie la plus dangereuse d'un voyage en aviation, c'est votre voyage entre chez vous et l'aéroport. Donc, il faut dire que l'aviation n'est pas dangereuse en soi. Mais je demande toujours qu'on prie pour moi. Puis le soir avant, nous avions notre rencontre de maison avec les amis dans le village. Et puis, c'était super, mais absolument super. On était vraiment proche du Seigneur, on sentait sa présence, c'était merveilleux. Puis à la fin, j'ai dit, mais écoutez, j'aimerais bien que vous priez pour moi, je vais partir avec l'avion demain, j'aimerais qu'on... Alors, priez pour moi. On est sortis, le soleil était juste couché derrière le Jura, les premières étoiles, c'était beau, c'était super d'être avec, bien avec le Seigneur. On est chrétien, mais qu'est-ce qu'il y a de mieux? Le lendemain matin, je pars à Paris, il fait beau, il n'y a pas un nuage, je suis là, en train de chanter des cantiques. Tue-tête, pareil que je chante bizarre, donc je n'ose pas chanter quand il y a des gens, mais là je peux chanter, ça gêne personne, parfait, j'atterris à Paris, je fais mes affaires, journée parfaite. Et puis je rentre à l'aéroport, et puis bon, il faut passer à la météo, je passe à la météo, IFR sur Genève, sur Lausanne, etc. Monsieur me dit, aucun problème, c'est tempête de beau temps. Vous aurez, oui, un peu tout petit peu d'instabilité en fin de soirée, mais vous serez là, vous largement rentré avant. Et puis je regarde par-dessus son épaule, puis je vois un petit nuage sur le lointain comme ça. Je dis, mais hey, ça là-bas. Il se retourne. Ah bon? Il va regarder son radar, et puis il me dit, non, aucun danger. Alors, je vais monter dans mon avion, mais il faut à peu près une demi-heure tout préparer. Et au moment de vouloir décoller, bah, j'ai pas mal de nuages. Et une fois que j'étais en l'air, voilà, j'étais vite dans les nuages. Et puis, ça commençait à secouer. Et puis, au-dessus de Paris, vous ne pouvez pas tellement tourner. Vous devez suivre les voies extrêmement, extrêmement serrées, et ça secouait plus. Puis je sors, et devant moi, un magnifique, on appelle ça les Charlie Bravo, un nuage d'orage. Oh là, j'ai demandé de dévier, on me laisse dévier un tout petit peu, mais je dois passer par le bord. Ça secoue, il commence à voir les éclairs, commence à voir la grêle, tempête de beau temps. Alors j'en sors d'un, je rentre dans un deuxième. Puis ensuite, il y en avait plein. Alors au bout du troisième, je commence à dire, mais écoute Seigneur, ça ne devait pas se passer comme ça. Et puis le Seigneur avait mis son portable sur abonné absent. Où il a mis le combox. Oh Seigneur, je suis là, rappelle-moi quand lorsque tu peux. Et puis au quatrième, cinquième orage, alors là je commençais à vraiment pétard, un peu comme John Jonas. Mais non Seigneur, j'étais bien avec toi hier soir, pas de raison que tu me fais ça. Toujours combox. Alors ensuite, j'arrive au sixième, au septième. Moi, j'ai jump sound, je pense tout d'un coup c'est le septième. Mais je n'ai pas fait le joint avant. Dans le septième orage, j'ai explosé. J'ai dit, Dieu, c'est pas juste. Je suis bien avec toi. Je n'ai rien fait pour mériter ça. Et puis dans mon casque, j'entends une voix qui me dit, je ne t'ai jamais promis un ciel toujours bleu, mais je suis là avec toi dans la tempête. J'ai cru que c'était le contrôleur, mais qu'est-ce qu'il me raconte celui-là alors? Et puis je regarde le siège à côté, personne. Et puis ça se répète, mais je me dis, bien content une deuxième fois, mais je l'ai entendu dans mes oreilles. Je ne t'ai jamais promis un ciel toujours bleu, mais je suis là avec toi maintenant dans la tempête. J'ai dit, merci Seigneur. Alors, puisque je suis pragmatique, tu fais comme avec tes disciples, il n'y a plus de tempête, je sors de l'autre côté et puis c'est beau jusqu'en Suisse. Eh, mais non, j'étais dans le septième, j'en ai tapé encore 10 autres. J'ai fait 17 orages avant d'arriver à Genève. Alors vous savez, j'étais épuisé, mais j'avais quand même la certitude qu'il était avec moi. Et pourquoi j'ai pris ça comme une véritable leçon? Parce qu'il y a une coïncidence qui est incroyable. C'est que je rentre à la maison ce soir-là, je dis à ma femme, ce qui est du courrier, elle me dit, voilà, juste une petite enveloppe, mais il n'y a rien dedans. Enveloppe envoyée par notre mission de Floride, 10 jours avant. Je l'ouvre, il y avait ça, et un petit papier pour dire, quand j'ai vu ce mot, j'ai pensé à toi. Quel est ce mot? C'est en anglais, après je vais traduire. God hath not promised skies always blue, but strength for the journey all the day through. Dieu n'a pas promis un ciel toujours bleu, mais la force pour pouvoir marcher par notre voyage jour après jour. Alors si ça, ce n'est pas une leçon de la part du Seigneur, je vous demande qu'est-ce qu'il faut comme leçon. Alors moi, je dois dire que mon quart et 45 minutes sont écoulées. J'avais encore plein de choses à dire, mais j'aimerais peut-être juste dire une chose. Éphésiens, si vous êtes d'accord, Éphésiens 3, je peux encore avoir 2 minutes. Éphésiens 3, c'est un verset que Rick a lu déjà dimanche passé. Éphésiens 3, 20, c'est bien connu. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en vous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. C'est cet infiniment au-delà, et c'est ça le message que j'aimerais vous laisser à la fin. Aujourd'hui, c'est que ces deux mots en grec, c'est infiniment au-delà, c'est bien au-delà, puis un autre mot qui est intraduisible. Alors j'ai perdu ma place parce qu'il faut que je trouve la traduction. Voilà. Alors le deuxième mot ne peut pas être traduit facilement, mais peut être décomposé. Quand je le décompose, ça me donne au-delà, de plus, infiniment plus. Donc si on prend ces deux mots ensemble, ça fait au-delà, de plus, infiniment plus. Ce qui veut rien dire, mais ce qui veut beaucoup dire. Alors moi, j'utilise comme illustration ce que j'ai entendu avec un petit une fois. J'ai dit, qu'est-ce que tu aimes ta maman? Ah, oh, je l'aime beaucoup. Des milliards et des milliards. Mais c'est ça, je pense, que ce verset veut dire. Que Dieu, il nous intéresse, il nous aime et qui peut faire ça en nous. Mais des milliards de plus que nous pensons. Alors, nous qui sommes dans le trou, qu'on a creusé nous-mêmes ou que nous y sommes parce que nous avons voulu suivre le Seigneur, qu'on sache que le Dieu qui est avec nous sur la montagne, ce même Dieu est avec nous au fond de la vallée, même si c'est nous qui l'avons creusé nous-mêmes, et ça se peut bien qu'il nous fasse un gâteau chaud avec une cerise. J'aimerais juste pour terminer lire Jude, verset 24. « Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous fait paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles. Amen. »